Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal sur Radio Kapi. D'abord les titres. Célébration ce mardi 30 avril dès la journée nationale de l'enseignement. Au Nord Kivu, une soixantaine d'enseignants ont été tués, des écoles incendiées et un nombre incalculable d'élèves déplacés à la suite des multiples attaques de rebelles des ADF depuis 10 ans dans la région de Beni. Tableau sombre de la situation de l'enseignement dressé par les syndicats des enseignants du Congo, section de Beni. De son côté, le gouvernement de la République démocratique du Congo fournit des efforts pour l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant congolais. Le secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui s'est ainsi exprimé reconnaît tout de même que beaucoup de défis restent encore à relever dans ce domaine. L'invité de ce journal est le directeur intérimaire en charge de la sensibilisation, d'organisation, formation et d'entraînement de la réserve de l'armée et de la défense. En mission au Sud Kivu, le colonel Soupir Malumba Mueloa revient sur la mission principale de la réserve de l'armée et de la défense. Bonjour, ce journal part de Beni dans le Nord Kivu. À l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année, le syndicat national des enseignants SIECO, section de Beni, dresse un tableau sombre du secteur de l'enseignement en ville et territoire de Beni au Nord Kivu. Le SIECO Beni rapporte que depuis 10 ans, une soixantaine d'enseignants ont été tués, des écoles incendiées et un nombre incalculable d'élèves déplacés à la suite des multiples attaques des rebelles des ADF. Jérémy Kasereka Kinyangwa, conseiller du SIECO Beni, parle d'une situation qui impacte sur la qualité de l'enseignement dans la région de Beni. Il est au micro de Guylaine Kassassia.
Il y a plusieurs écoles qui ont déjà été incendiées. Nous comptons environ 65 enseignants qui ont déjà été décapités par les ADF. Nous avons des écoles qui sont délocalisées, des enfants aussi qui sont en difficulté même de faire face aux frais scolaires à cause de la paupérisation des parents qui ne peuvent plus fréquenter leur champ. Alors, nous allons profiter de votre micro pour lancer un appel pathétique au gouvernement de pacifier notre zone. Parce que vous savez ce que représente l'éducation pour toute une nation. Lorsque plusieurs contrées sont déjà dévastées par l'activisme des rebelles et ADF. Et là, ce sont les écoles qui sont soit brûlées, soit délocalisées. Ça s'appelle maintenant des effets de cause à effet. Ça signifie que le niveau des élèves a sensiblement baissé. Imaginez, nous avons 222 jours au secondaire. Si on peut aller jusqu'à 130 à cause de l'activisme des rebelles, cela impacte profondément la qualité de l'enseignement dans notre zone. Et je sais que si rien n'est fait d'ici 5 à 10 ans, en tout cas, nous aurons déjà presque enterré l'enseignement ici dans notre contrée.
Pendant ces temps, toujours dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, les enseignants servant dans les zones d'insécurité ont des difficultés à percevoir leur salaire. Le chef de la Direction nationale des contrôles et payes des enseignants dans la région d'Eringeti-Kainama rapporte que ces derniers sont contraints d'abandonner les cours pour parcourir des longues distances afin de rejoindre les banques où sont domiciliés leurs comptes avec tout ce que cela comporte comme risque. Certains d'entre eux ont malheureusement été victimes des embuscades d'hommes armés, comme l'explique Bienfait Baraka au micro de Marc Marofimbo.
Il y a d'énormes difficultés lorsque vous quittez Kainama jusqu'à Beni uniquement pour venir retirer ton salaire, soit à la Tembe, soit à la BCDC. Mais avec la Tembe, ça marche un peu bien parce qu'ils ont un système de PPL, ils envoient l'argent. Mais avec Ekutu BCDC, ils n'ont pas ce système. C'est ce qui impacte négativement lorsque l'enseignant quitte trop loin avec la situation sécuritaire. Vous trouverez que l'enseignant peut faire 2-3 jours sans activité et ça impacte. Et surtout, ce sont les élèves qui sont pénalisés. Mais peut-être une solution, ça sera de rapprocher l'enseignant. Dorénavant, la Tembe suivait les enseignants, mais vu la gravité sécuritaire, ils ont arrêté d'aller suivre les enseignants. Mais si nous prenons par exemple l'axe Mbau Kamango, les enseignants qui quittent Kamango jusqu'à Beni, aller suivre les salaires, avec les risques sécuritaires, environ plus de 150 km, c'est trop dangereux. Vous voyez que c'est un peu compliqué.
Dans le même chapitre, au sud d'Ubangi, aucune manifestation commémorative n'est organisée dans le 9 sous-divisions de l'EPST Kungu à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement. Les enseignants boycottent la journée au motif de leurs mauvaises conditions socio-professionnelles, notamment les retards des paiements des mois de mars et avril 2024. Ainsi, le président et porte-parole de l'intersyndicale des enseignants de Kungu a invité ses collègues à passer la fête des enseignants sous la méditation. On écoute Emmanuel Bamolokolkwa au micro de Paul Richard Malengela.
Aucune activité n'est prévue dans toutes les 9 sous-divisions provinciales de l'EPST dans l'étendue du territoire de Kungu le mardi 30 avril 2024 à l'occasion de la journée dédiée à l'enseignement en République démocratique du Congo du fait que les états d'esprit des enseignants ne sont pas bons compte tenu des conditions socio-professionnelles de ces chevaliers de la craie blanche qui se dégradent de jour au jour et réaliser une quelconque activité en cette journée pendant que chacun attend d'abord une augmentation en ce mois d'avril alors que tout est renvoyé au calendre et que le salaire du mois de mars ne nous sont pas encore parvenus jusque-là suite aux manœuvres de la Caritas Boudjala. C'est pourquoi l'intersyndicale demande aux enseignants du territoire de Kungu de passer cette journée tranquillement dans leur maison sous la méditation autour du grand thème « La valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité en RDC ».
De l'autre côté, la journée de l'enseignement en RDC a été commémorée sans grand bruit dans la province du Sud Kivu. C'est seulement la veille que le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique a organisé une conférence débat sur la nécessité d'inculquer les notions du patriotisme chez les apprenants. Les acteurs de l'éducation conviés à cette activité sont tombés unanimes sur les renforcements du programme national qui met un accent particulier sur les cours du patriotisme depuis l'école primaire jusqu'à l'université. D'un autre point de vue, le gouvernement de la République démocratique du Congo fournit des efforts pour l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant congolais. Malgré cela, il y a encore du chemin à faire. Propos de Jean-Jacques Musungai Odia, secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement, ce 30 avril. Pour lui, beaucoup de défis restent encore à relever dans ce domaine. Il était l'invité de notre magazine Parole aux auditeurs de ce mardi qui était consacré à cette journée nationale fériée en RDC pour les élèves et les enseignants. Jean-Jacques Musungai Odia est au micro de Marcel Gombombala.
Il faudrait améliorer les conditions salariales, les conditions de travail de l'enseignant. Cela est vrai, mais les efforts sont là. On le voit, le gouvernement fait quelque chose. Et c'est vrai que ce n'est pas encore suffisant hein, aux yeux de beaucoup d'acteurs et d'autres observateurs. Il faut toujours améliorer. Les efforts sont là. Vous constatez vous-même qu'il y a des raisons hein, qui laissent croire qu'on n'a pas encore vu le bout du tunnel. On n'a pas encore vu le bout du tunnel. Il faut continuer, il faut continuer. Les efforts sont là. Vous l'avez constaté vous-même. On est allé de 200, 280 000 francs. Aujourd'hui, on est au-delà. Mais c'est toujours insuffisant parce qu'il y a encore cet effritement de la monnaie. Ça engloutit tous les efforts, pas tous, mais disons à plus de 70% des efforts qui sont déjà consentis.
Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale renvoie sine die l'opération des dépôts des candidatures à l'élection des membres du bureau définitif. Dans un communiqué signé par les secrétaires rapporteurs parvenu à ce matin en Radio Capi, les bureaux d'âge justifient ces reports par la tenue hier lundi des élections des sénateurs et gouverneurs auxquelles plusieurs députés étaient candidats et sont encore à l'intérieur du pays. En réaction, plusieurs députés, tant de la majorité que de l'opposition, dénoncent ces reports qui, selon eux, n'a aucun fondement légal et pénalisent énormément la marche du pays pour des combines politiciennes. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Le report par le bureau provisoire des opérations de dépôt de candidature à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale bloque les institutions du pays au profit des combines politiciennes, dénoncent les députés Guy Mafuta de l'Union Sacrée.
Ce communiqué me laisse quand même assez perplexe aussi. L'acte de dépôt de candidature est un acte personnel. Et ce sont des actes qui ne devraient nullement engager l'institution Assemblée nationale. Apparemment, l'urgence, c'est un peu les combines politiques. Et là, nous disons non, il faut quand même se rendre compte que le pays est agressé.
L'opposition parlementaire appelle à l'implication personnelle du chef de l'État. Christian Mwando.
La présence des députés aux élections de gouverneurs et des sénateurs n'est pas une raison fondée. Le dépôt des candidatures concerne ceux qui pensent rester à l'Assemblée. En reportant sans fixer une nouvelle date, ça veut dire que nous sommes partis pour encore 2 à 3 semaines, ce qui n'est pas normal. Le président de la République doit interpeller le président du bureau provisoire de l'Assemblée.
Le président du groupe parlementaire de l'opposition, Christian Mwando, invite le bureau d'âge à terminer dans le respect du calendrier électoral publié samedi avec l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale.
Entre-temps, notez cette réaction au lendemain de l'élection du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Notamment, les résultats de ces élections montrent que la majorité appartient à l'Union sacrée pour la nation et non à un seul parti politique. Réaction de Gérard Moulumba, dit Gécoco, à l'issue des scrutins qui ont permis au ticket Daniel Bumba et Didier Iyeli d'accéder au gouvernorat de la capitale congolaise. L'ancien vice-gouverneur de Kinshasa, qui s'en réjouit, a lui été élu sénateur du nouveau locataire de l'Hôtel des Villes, Gérard Moulumba dit attendre sur tous les travaux. Il s'est exprimé ainsi à sa sortie de la salle des votes au micro de Babel Mpongo Masimango.
Je pense que je suis parmi ceux qui ont été élus avec beaucoup de voix. Obtenir 5 voix pour aller représenter la République au niveau du Sénat, ce n'est pas du tout facile. J'ai été élu avec 5 voix. Je suis parmi les mieux élus de Kinshasa. Les petits montages qu'ils ont faits pour salir les candidats Daniel et les candidats Eddy et Eli, ça n'a pas bien tenu. Vous avez vu que nous, qui sommes députés provinciaux, nous avons voté Daniel Bumba avec 37 voix. Donc aujourd'hui, on dira que cette histoire-là de la corruption qui a été mal ficelée, s'il faut dire, ça a été démantelé ici, ça a été démenti que la majorité appartient pas à l'UDPS, mais la majorité appartient à l'Union sacrée.
Qu'est-ce que vous attendez de lui?
Bon, on attend qu'il travaille, hein.
Et puis, Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, élu gouverneur du Congo central, n'a pas droit à l'erreur car la province a beaucoup reculé. C'est ce qu'a déclaré le président du cadre de concertation de la société civile du Congo central. Jules Benga, qui a personnellement assisté à ces votes, affirme n'avoir élevé aucune irrégularité dans les différentes étapes de ces votes. Ainsi, il appelle la jeunesse du Congo central à ne pas céder à la manipulation. Jules Benga, président du cadre de concertation de la société civile du Congo central et dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambo.
Nous pensons que c'est une nouvelle ère pour le Congo central et nous demandons à son Excellence M. Grâce Bilolo qui vient d'être élu et qui n'a pas droit à l'erreur. La province a beaucoup souffert, qu'il regarde tous les problèmes, qu'il consulte toutes les parties prenantes pour que nous puissions ensemble aller de l'avant. À la population du Congo central de rester calme et vigilante, puisque c'est nous-mêmes, nous, la population, nous avons élu les députés. Nos honorables députés ont été élus par nous-mêmes. Ce sont eux les grands électeurs du grand jour qui sont allés aussi élire les gouverneurs et les sénateurs. Je pense qu'ils doivent maintenant attendre le programme du gouvernement provincial qui sera adopté incessamment au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc, s'il y a des manipulations et que sais-je encore, que la jeunesse puisse se référer à la société civile puisque nous sommes une province qu'on appelle l'oasis de paix. On n'a pas besoin de désordre et que sais-je encore. Nous pensons que nous allons tourner l'heure de Guy Bandou. Maintenant, c'est Grâce Bilolo.
Direction province du Tanganyika, plus de 7000 ménages vivant dans des sites de déplacés à Kongolo ont besoin d'une assistance humanitaire, mais d'autres souhaitent retourner dans leur milieu d'origine. Ils l'ont fait savoir ce lundi à l'administrateur du territoire de Kongolo. La plupart ont fui des affrontements entre groupes armés dans les territoires de Kabambare, province du Maniema. Les points avec Paul Munanga.
Ces déplacés vivent depuis 8 mois dans les sites de Kaseya, Kabianga et Tchofa à Kongolo. Leurs représentants sont allés à la rencontre de l'administrateur du territoire de Kongolo pour lui faire part de leurs difficultés. Ils manquent les moyens de survie et certains sont obligés de faire des petits travaux chez des particuliers pour s'en sortir. Témoignage de quelques déplacés. Nous vivons difficilement dans ces camps. Je peux aller par exemple au centre-ville pour laver les habits chez un particulier et on me paye 2000 francs congolais. congolais. Cela me permet d'acheter un bassin de maïs. Il n'y a aucune ONG qui nous assiste. Il n'y a que des simples visites. Certaines personnes qui disent travailler pour l'OIM ou Caritas nous rendent visite tout simplement. L'administrateur du territoire de Congolo leur a rassuré qu'il a déjà fait rapport de leur situation à la hiérarchie. Cependant, pour les chefs des bureaux de l'Organisation internationale pour les migrations dans le Tanganyika, l'OIM s'occupe de se déplacer en installant des abris dans ces sites. Il précise que des efforts sont fournis pour installer des sanitaires et des points d'eau. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, vol du prix qui avait été remis à Cannes au réalisateur malien Souleymane Cissé. Il y a un an, Souleymane Cissé était honoré à l'ouverture de la quinzaine des cinéastes durant le Festival de Cannes avec la remise du Carrosse d'or, un prix que le réalisateur malien s'est fait dérober à son domicile à Bamako.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur ad intérim en charge de la sensibilisation, d'organisation, formation et d'entraînement de la réserve de l'armée et de la défense, RAD en sigle. Le colonel Soupir Moulumba Mueloa est au Sud Kivu pour sensibiliser les jeunes filles et garçons à adhérer massivement à la réserve de l'armée et de la défense, RAD en sigle. Quelle est alors la mission principale de la réserve de l'armée et de la défense et comment fonctionne-t-elle? Le colonel Soupir Malumba répond aux questions d'Emmanuel Elamenjoa Kabedi.
Colonel Soupir Malumba Mueloa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quels sont les objectifs principaux de la RAD, réserve armée de l'armée et de la défense?
Les objectifs principaux ou bien la mission principale,
la mission principale de la RAD,
c'est renforcer les FRDC tant en temps de paix qu'en temps de guerre. La RAD, c'est une structure de la défense. En temps de guerre, la RAD renforce les FRDC avec des réservistes. Donc, nous avons des militaires retraités et cadres des services de sécurité. La seconde catégorie est constituée des démobilisés des services militaires contractuels parce que actuellement, avec les statuts militaires, il y a des militaires sous contrat et des militaires sous statut. Les sous statuts font carrière et les sous contrats signent un contrat de 7 ans une fois renouvelable. 7 ans une fois renouvelable, ça fait un maximum de 14 ans. Mmh. Et lors du recrutement, on recrute à un âge maximum de 25 ans. Comprenez par là, à 39 ans, on peut être encore fort et on peut servir dans la RAD. Troisième catégorie, c'est la catégorie des démobilisés de service militaire obligatoire. Parce qu'il a été institué. Pour aller à l'université, vous devez d'abord passer par les services militaires et puis vous vous démobilisez, vous continuez. Quand vous vous démobilisez, vous pouvez faire partie de la RAD à tout moment où on a besoin de vous, on peut faire recours à vous. Et la quatrième catégorie, maintenant, c'est la catégorie la plus cruciale, qui est celle de volontaires engagés pour la défense de leur patrie, parce que l'article 63 de la Constitution en a prévu.
Ça, c'est même des jeunes gens, des civils?
Oui, oui. Ce sont là les jeunes civils qui sont engagés pour la défense de leur patrie. Mmh. C'est le cas de Wazalendo aujourd'hui. Ils sont engagés pour la défense de leur patrie et que eux aussi peuvent faire partie de la RAD. Et d'ailleurs, la mission principale qui nous a amenés, c'est la mission de les sensibiliser, les identifier, les former dans le format RAD pour qu'ils deviennent des réservistes capables à aller secourir les FRDC en cas de besoin.
Qu'est-ce qui vous amène au Sud Kivu aujourd'hui, dont vous êtes venu pour la sensibilisation, pour l'identification?
Nous sommes d'abord dans la phase de sensibilisation. Après la sensibilisation, nous procéderons à l'identification. Et puis, nous procéderons à la formation. Parce que la RAD, pour réussir ses missions, surtout dans les cas de la catégorie de Wazalendo, on doit d'abord leur donner de l'idéologie, l'idéologie patriotisme, dans un format de la RAD. Et l'autre pilier, c'est le pilier production. Alors, dans le pilier production, la RAD a mis en place un programme d'industrialisation intégrée. Alors, ce programme d'industrialisation intégrée, c'est là où nous aurons beaucoup d'unités de production. Nous aurons même des brigades agricoles, des brigades d'élevage, des brigades de restauration environnementale. Et on mettra en place un système de chambres de métiers dans chaque province. On va former les gens dans plusieurs métiers.
Donc la RAD va avoir des camps de regroupement dans chaque province.
Comme je l'ai dit, la RAD aura une coordination provinciale. Parce que dans la RAD, nous avons des réservistes actifs et des réservistes non actifs. Mm-hmm. Ce sont ces réservistes actifs qui seront formés, ils seront organisés en unité combattante et prêts à aller intervenir en cas de besoin.
Les actifs et les non actifs seront pris en charge totalement par l'État congolais.
Évidemment, pris en charge totalement par l'État congolais. Parce que ces réservistes actifs, une fois vous devenez actif, vous êtes organisé dans une unité combattante. Et là, vous exercez certaines fonctions. Et là, telle fonction, tel grade. Ils auront des grades par assimilation, comme l'article 84 du statut le dit.
Merci beaucoup, colonel Supira Malumba Mueloa. Quels sont les avantages de faire partie de la RAD, réserve de l'armée et de la défense?
Alors, les avantages de faire partie de la réserve armée de la défense, parce que dès que vous êtes dans la RAD, vous êtes considéré comme un agent public de l'État. Vous êtes payé par l'État. Et que avec la RAD, on aura à aider l'armée dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, surtout en temps de paix, parce qu'en temps de paix, l'armée doit participer au développement du pays. Et avec les programmes d'industrialisation intégrés, et j'appelle tout le monde à aider la RAD pour que la RAD puisse réussir.
Colonel Supira Malumba Mueloa, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Radio Kapi, mise en onde par Billy Landry Betou, supervisée et coordonnée par Martin Sebujangwe et Élisée Chukota-Tivueta. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie.